Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de handicap. Handicap psychique, handicap mental. On va essayer de tout comprendre en fait ce matin. Et on en a pour une heure pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un handicap psychique.
Full Santé Mentale sur RCN.
Pour m'accompagner ce matin, je suis très bien accompagné par notre ami Roman. Bonjour Roman.
Salut Thomas, comment ça va?
Mais très bien Roman du PTSM 5... Du CREPSI, pardon, je mélange tout.
Les gens, le public,
le PTSM est ici présent, on le rappelle, partenaire de cette émission. Toi, tu fais partie du CREPSI et Espoir 54.
Centre ressources handicap psychique, Antenne Lorraine.
Très bien. À côté également, Ambre. Bonjour Ambre.
Bonjour Thomas.
Quel plaisir de te retrouver.
Bah, plaisir partagé.
Pareil, du CREPSI également.
Ouais. C'est
et
ça.
Puis, pour nous accompagner et discuter ensemble de cette thématique, Armel Martinez. Bonjour Armel.
Bonjour.
C'est pas votre premier témoignage ici, mais vous allez revenir témoigner à notre micro ce matin, puisque la thématique choisie, ça va être de comprendre ce qu'est un handicap psychique. Hein, c'est bien l'enjeu. Vous êtes vous-même usagère d'Espoir 54 à Armel, et donc vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi vous considérez effectivement que vos troubles psychiques constituent un handicap. Donc on va évidemment essayer de comprendre
bien
tout
sûr.
Ça pendant cette heure-ci. Comme chaque fois, on démarre cette émission par les micro-trottoirs. On est allé rencontrer des gens dans la rue, leur poser des questions. Ambre, quelle est la première question qu'on a posée aux gens?
La première question qu'on leur a posée, c'est selon vous, qu'est-ce que le handicap?
Qu'est-ce que le handicap? Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah écoutez, une différence, déjà, la différence.
Ça m'évoque une insertion professionnelle compliquée, mais ça c'est parce que je suis formateur.
Okay.
Ça m'évoque du handicap invisible, une adaptation des postes de travail et peut-être une prise en compte plus globale dans la société.
Bah c'est quelque chose que je souhaite à personne, ça peut être tout. Ça peut être psychologique, moteur ou ne même pas être sociable.
Pour moi, ça va évoquer tout ce qui est handicap physique et mental. On parle beaucoup de santé mentale maintenant, donc je pense que c'est ça qui, même limite, vient au-dessus du handicap physique.
Bah alors le problème, c'est qu'il peut être soit visible, soit non visible, donc c'est une gêne pour des personnes. Après, ça peut être tout, ça peut être physique, ça peut être pas physique, voilà quoi.
Un handicap, c'est avoir un problème de mobilité, quoi.
Des difficultés particulières au quotidien à faire certaines choses ou à penser d'une certaine façon.
Moi, c'est surtout les handicaps lourds, les gens en chaise roulante,
okay.
ou qui sont amputés d'un membre, okay. ou qui voient mal. Ou,
okay. Plus du handicap physique, en
voilà,
fait.
Quand on parle de handicap, moi c'est ce qui me vient.
Physique.
C'est la première chose qui me vient en tête, en tout cas.
Ok, ça marche. Okay.
Ma vie. Moi, pour moi, le handicap, ça évoque son étymologie, donc le hand-in-cap, qui est le jeu de la main dans le chapeau, qui permettait justement aux gens de sortir de leur zone de confort pendant un temps. Ça me rappelle aussi le fait que le handicapé au niveau des courses de chars romaines, c'était justement le cheval qui avait le plus de performance. Donc on alourdissait de manière à ce qu'il okay. puisse justement, que ça se joue sur la maîtrise du cocher et pas sur la force newton-mètre du cheval en puissance. Et après, malheureusement, à la hauteur de la Seconde Guerre mondiale, ça a pris une tournure un petit peu différentielle qui est justement l'handicapé de guerre et qui a pris donc tout son sens péjoratif. Mais pour moi personnellement, le handicap, c'est une force incomprise.
Le handicap, c'est une force incomprise.
Oui.
Intéressant.
Oui, oui.
Et quand on revient un petit peu comme ça dans l'Antiquité, hein, c'est assez étonnant.
Oui, le terme handicap, il l'a bien dit, hein, le monsieur, ça vient du jeu dans le chapeau, donc hand, donc main, et incap, dans, chapeau.
Mmh.
Et donc c'était un jeu d'échange qui était pratiqué à l'époque, et puis après ça a pris un sens, en fait ça s'est amené dans le milieu hippique,
mmh.
où en fait on rechargeait des chevaux avec des poids pour qu'ils soient plus lourds,
mmh.
pour qu'ils soient équitables avec les autres adversaires qui s'étaient un peu moins bons. Voilà, donc à la base c'était ça, le handicap. Et ça a pris une tournure, comme il l'a expliqué, à la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu plus péjorative
ouais.
maintenant. Mais donc, à l'origine, c'était pas une faiblesse, hein, c'était pour une manière de rétablir l'égalité en
ouais.
fait, des chances entre des gens et des animaux aussi, du coup. Et puis, ça a pris le sens aussi que la loi du 11 février 2005 lui a donné. Donc je vais la dire, c'est constituer un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc une large définition pour le terme handicap que les personnes ont finalement plus ou moins dites. Hein. On a entendu hein, la mobilité, on a entendu le psychisme, le psychologique.
Oui, j'étais étonné parce que globalement, les gens associent en tout cas intègrent le psychisme comme handicap au même titre que le handicap moteur.
Hein. Ouais, c'était intéressant. Il y en a même qui l'ont dit, on le fait passer avant maintenant.
Ouais.
Donc c'était vraiment, nous aussi, ça nous a surpris hein, quand on a fait le micro-trottoir. J'avoue que c'était une bonne surprise hein, pour le coup que les gens associent quand même la santé mentale, le psychisme avec une possibilité de handicap derrière. Maintenant, on voit quand même qu'il y en a qui pensent au physique direct avec des troubles graves moteurs.
Ouais, handicap mais... lourd, pour reprendre le terme du monsieur, handicap lourd, voilà. C'est ça, je pense que dans la présentation, ça reste majoritairement
sachant
ça.
Sachant que 80% des handicaps sont invisibles.
Ouais. Ouais. Oui.
Ouais. Donc, mais effectivement, là, ça revient. C'était d'ailleurs quand on en avait parlé il y a quelques mois hein, de cette émission, on avait l'impression que c'était quelque chose qui pouvait pas être intégré par les gens.
Ouais.
Et là, pourtant, si.
Et là, pourtant, si, c'est très bien intégré. Et puis, c'était intéressant aussi de nous avoir la définition et l'étymologie du handicap par le jeune homme qu'on a interrogé.
Ouais.
On nous a aussi parlé de l'indistinction entre handicap visible et invisible. Hein, donc, les gens en sont très, très conscients de ça. Donc, cette première question fut une très bonne surprise en termes de réponse. Ça nous a fait plaisir par rapport à des fois.
Ça montre un peu que les mentalités évoluent aussi.
Oui, exactement.
C'est ce qu'on voit quand même dans Full Santé Mentale depuis 4 ans qu'on fait l'émission.
Et puis quelqu'un a dit d'ailleurs, hein, c'est vrai que la santé mentale est quelque chose qui préoccupe de plus en plus. Donc du coup, on commence à intégrer cette idée qu'il puisse y avoir aussi un handicap mental ou psychique. Évidemment, on essaiera de voir s'il y a une différence d'ailleurs entre les deux. En tout cas, bonne surprise sur cette première partie de micro-trottoir. La deuxième question que vous avez posée, c'était quoi ?
C'est si on vous parle de handicap mental, vous pensez à quoi et est-il associé systématiquement à une déficience intellectuelle ?
Handicap mental, des troubles qui peuvent être, oui, cognitifs, mentaux, je ne sais pas, de la schizophrénie, des troubles, ça peut être des troubles 10, ça peut être de l'autisme, mais ça ne m'effraie pas en tout cas.
Oui, une façon de réfléchir qui est différente de celle des autres et donc qui fait qu'au quotidien, on voit des difficultés là où d'autres n'en verraient pas ou... Voilà, je ne vois pas comment parler.
Pour moi, ce serait plus une déficience à la naissance, par exemple... J'ai une cousine là, qui, à la naissance, est handicapée. Handicapée et donc qui se développe mal d'un point de vue psychologique, okay. etc.
Bah,
surtout ça.
Bah, après, ça dépend la notion de chacun de handicap aussi, parce qu'il va y avoir tout ce qui est véritable trouble, je pense, qui est handicap vraiment, vraiment style... Bah, après, je ne m'y connais pas vraiment en maladie, mais tout ce qui va être moteur. Et après, il y a les troubles, on va dire, un peu plus réguliers, comme l'anxiété... la dépression qui sont très présents maintenant en fait.
Alors sans rentrer trop dans des détails personnels, handicap mental, donc concrètement c'est pour resituer qu'est-ce qu'on resitue comme étant handicap et qu'est-ce qu'on resitue comme étant mental. Un psychiatre me disait qu'une maladie mentale c'est une oscillation émotionnelle plus ou moins imperceptible. C'est-à-dire qu'en gros c'est une oscillation émotionnelle bon, qui peut prendre des proportions plus ou moins drastiques, mais par exemple si jamais j'avance, que je me tape l'orteil contre mon bord de table, que j'ai une oscillation émotionnelle contre la table sur le moment, j'ai une maladie psychique temporaire. Après, chez des gens, ça dure plus ou moins longtemps parce que c'est plus ou moins pris en compte par la société. Pour moi, c'est plutôt rattaché à une déficience de la société à comprendre l'intellectuel des gens.
Bah, je pense plus à des gens qui ont des maladies ou qui font de la dépression. De nos jours, c'est compliqué. Hein. Tout peut être groupé ensemble. Hein.
Oui, bien sûr.
Il y a des gens qui sont beaucoup plus faibles psychologiquement, ça peut être un handicap mental, qui font des crises d'angoisse ou des choses comme ça, c'est pas que l'handicap maladie. Hein.
C'est comme ça se prononce, handicap mental. Tout dépend le degré d'efficience mentale. Ouais. Il y a différents degrés, je pense. C'est médecin à décider combien de degrés de la personne a.
La psychiatrie.
Handicap mental, c'est varié aussi, ça. Bah, ça va être... Moi, j'ai les autistes, ces choses-là, non ?
Ouais.
Ouais, après, je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup.
Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce micro-trottoir quand on parle de handicap mental. On entend une dame hein, qui dit d'ailleurs, enfin, je pense que tu vas nous réexpliquer tout ça, mais malheureusement, de nos jours, tout se mélange un petit peu.
Et elle n'a pas tort. Et on le voit hein, dans ce micro-trottoir que tout se mélange un petit peu. Quand on parle de handicap mental, tout le monde parle d'autisme, de troubles 10, mais ils ont aussi parlé d'anxiété, de dépression, de schizophrénie. Et donc, on voit qu'effectivement... Ben, c'est pas tout à fait clair pour les personnes, parce que effectivement, le handicap mental, il regroupe pas, enfin, il n'y a pas la schizophrénie, il n'y a pas la dépression, l'anxiété, ça ne rentre pas dedans. Le handicap mental, ça va plutôt être ça va être plutôt être les troubles 10 et un trouble du spectre autistique, par exemple, ça rentre dans le handicap mental. Ouais. Ouais, y a aussi le jeune homme interrogé qui nous dit que c'est une oscillation émotionnelle plus ou moins temporaire, avec l'exemple du coin de table. Et que dans ce cas-là, on a une maladie psychique temporaire. En fait, c'est plutôt une émotion quand on se... qui survient quand on tape. Voilà, c'est juste émotionnellement, ça nous touche parce qu'on a mal et voilà, donc c'est pas trop ça. Et on a aussi posé la question de si c'était avec une déficience intellectuelle. Ouais. Et la plupart des personnes nous répondent non, il n'y a pas du tout de déficience intellectuelle. Il n'y en a que deux, je crois, qui disent que pour eux, effectivement, il y a une déficience intellectuelle et que c'est dû à ça, à la naissance, etc. Mais donc, pour qu'on éclaircira cette question...
Oui, parce qu'on verra qu'on peut avoir une notion de handicap psychique, une notion de handicap mental, avec peut-être justement plus cet aspect du retard qu'il peut y avoir éventuellement. Quoi.
C'est ça.
On en reparlera dans un instant, évidemment.
Exactement.
J'aimerais bien juste aussi dire qu'il y a eu cette notion de déficience de la société que je trouve intéressante.
Oui, voilà, c'est ce que je l'ai noté aussi. Moi, je trouve ça intéressant.
C'est intéressant. Armel, en quoi ça vous... Tiens, justement, pourquoi ça vous a interpellé? Moi, ça m'interpelle.
Ça m'a interpellé aussi, puisque je l'ai noté, mais effectivement, je sais pas, je peux pas interpréter ses propos. Moi, ça me renvoie à l'idée, effectivement, qu'il faudrait aussi... certes, on est tous différents, on a tous un fonctionnement psychique différent. Effectivement, que ça relève de la psychopathologie ou pas, du trouble psychologique ou psychiatrique, il faudrait aussi apprendre à être un peu plus tolérant les uns des autres. Et peut-être que ce qui déconne, c'est la société, dans le fait qu'on a tendance, que la société dans laquelle on vit encore aujourd'hui, a tendance à marginaliser les personnes qui souffrent de troubles psychiques, de handicaps psychiques. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Oui, tout à fait.
Un peu cette idée du regard de l'autre qui va faire que d'un seul coup on va être un peu stigmatisé quelque part.
C'est ça, voilà, c'est ça.
En tout cas, c'est comme ça qu'on peut éventuellement le comprendre.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même pour les troubles neurodéveloppementaux, on parle de neurodiversité, ce qui me semble plus approprié que...
On va essayer de définir un peu tout ça dans quelques instants. On essaie de se comprendre à peu près, mais c'est pas simple. On va le voir, il y a beaucoup de notions. Et on va essayer d'y voir un petit peu clair au milieu de tout ça. Ambre, la dernière question qu'on a été posée aux gens dans la rue, c'était...
Donc la dernière question, c'est: quelle est la différence entre handicap et trouble selon vous ?
Le handicap, c'est à partir du moment où c'est temporisé dans le temps. Un trouble, par contre, malheureusement, pour avoir des troubles obsessionnels compulsifs rattachés à l'insécurité, c'est une notion que tu ne vas pas maîtriser, qui va aller au-delà de ta volonté propre. Par exemple, je vois un sac à dos ouvert, j'ai rendez-vous dans 5 minutes et il me faut 4 minutes pour avancer, je vais quand même faire le détour pour dire bonjour, excusez-moi de vous déranger, votre sac à dos est grand ouvert. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va, moi, me percuter de pleine face. Par contre, le handicap en lui-même, c'est une directive, de mon point de vue toujours, hein. C'est une directive sur laquelle on peut soit nier, soit être nié, le verbe nier, ou gai, rire. La gaieté et la convivialité.
Okay, donc, voilà.
Et dans les grandes lignes, malheureusement, ça pareil, c'est toujours une question de perception et de société. Parce que vous prenez par exemple la médecine chinoise, le médecin n'est pas payé tant que son patient est malade. Dès que son patient est guéri, par définition, il est de nouveau payé. Ça veut dire qu'il a bien fait son taf. Moi, quand je vois qu'il faut attendre 4h30 aux urgences pour rencontrer un psychiatre et que les 4h30 d'attente, ça va être ni plus ni moins attendre de voir le médecin somatique pour voir si tu vas bien, alors que physiquement parlant, tout roule bien, je me dis qu'il y a quand même un gros problème.
Le trouble, c'est plutôt des troubles médicaux. Handicap mental, ça peut être des faiblesses. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être beaucoup de choses.
On peut tous être handicapés, en fait. Un handicap... On a le statut de handicap quand la MDPH statue que, mais finalement, est-ce qu'un trouble ne peut pas être un handicap? Bien sûr que si, du moment qu'on est freiné, bloqué dans son épanouissement personnel, professionnel, affectif. Je ne sais pas s'il y a une grande différence, c'est surtout une différence de définition de société finalement. Mais on peut avoir un trouble n'importe lequel qui peut constituer un handicap majeur dans son épanouissement perso. C'est une différence de mots, quoi. de concept. Mais l'un peut être l'autre. Donc je ne fais pas une différence majeure, si ce n'est celle des dictionnaires, quoi.
Il y a certainement une différence, mais subtile, je pense.
Le trouble, c'est pareil. Faut savoir combien de degrés la personne a de trouble. Vous savez, les maladies, c'est difficile à cerner quelle maladie la personne a. Il n'y a que le médecin qui peut décider, quoi. Malheureusement. Et ça n'arrive à tout le monde.
Honnêtement, je ferais même pas la différence. Après, s'il fallait vraiment dire quelque chose... Ouais, non, les deux se handicapent de la même manière, en fait. Donc, ouais, non, c'est dur de faire la différence. Je retire ce que j'ai dit, j'en ferai pas.
Peut-être que les troubles, c'est temporaire et ça dure un certain temps. Et puis, peut-être que ça passe, alors que un handicap, c'est permanent et c'est toujours là.
C'est intéressant, hein. On a entendu d'un côté, pour une personne le handicap c'est temporaire, pour l'autre personne c'est permanent.
Ouais, c'est, on a entendu tout et son contraire, hein, dans cette, quand on leur a posé la question, et on sent que la distinction elle est pas du tout claire.
Elle est ténue, hein, elle est vraiment ténue dans l'esprit des gens. Ouais.
Oui, elle est vraiment très très floue, subtile, et il y en a qui ne font même pas de différence entre les deux. Il y en a un qui nous dit, c'est à part celle du dictionnaire, mais entre les deux je fais pas de, je fais pas de différence. En revanche, il y a un point où on nous dit oui, bah, handicap et trouble, finalement, on peut tous avoir un handicap et on peut tous avoir un trouble, etc. Bah, c'est pas faux non plus. On peut tous avoir être touché par un handicap à un moment donné, que ça soit psychique ou moteur. Hein, je veux dire, ça arrive à tout le monde de devenir sourd avec l'âge, par exemple. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Parfois c'est réversible quand même. Hein, par exemple, on parlera du handicap psychique, hein, mais c'est un cas un peu particulier où il y a des possibilités de rétablissement. Et donc il y a effectivement cet aspect temporaire pour le trouble qui est arrivé et permanent pour le handicap. C'est pas si vrai non plus que ça, mais on reviendra pareil sur ce point tout à l'heure où j'expliquerai évidemment la différence entre trouble et handicap.
Oui, Ambre, on va vraiment avoir besoin de tes lumières là pour bien comprendre, parce qu'on sent que cette définition du handicap elle est très compliquée à trouver. Moi j'entendais, on y reviendra dans un instant, hein, qu'il y a un monsieur qui dit que c'est presque une notion administrative, avec la MDPH qui définit effectivement qu'il y a un handicap ou qu'il n'y a pas de handicap, mais j'imagine que c'est peut-être pas que administratif, on va essayer de le comprendre dans un instant.
Ouais, parce que c'est pas que administratif.
On est bien d'accord, et on le comprendra aussi par le témoignage tout à l'heure d'Armel. Je vous propose qu'avant de poursuivre et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, je le précise, hein, le thème de cette émission fait que c'est pas évident de s'y retrouver. Et puis si vous avez entendu ce micro-trottoir, peut-être justement vous avez encore pas bien cerné justement quelle est la différence entre trouble et handicap, entre handicap psychique et mental. Et voilà, on va essayer de voir clair ça dans un instant. Avant, on va écouter un titre qu'a choisi Armel, notre témoin. C'est un titre de
Des Pixies.
Ça s'appelle Where Is My Mind. Alors Armel, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi vous avez choisi ce titre ce matin?
C'est surtout comme la fois précédente lorsque je suis intervenue à l'émission. Du coup, j'ai été prise de court sur le fait effectivement qu'il fallait trouver une musique. J'avais encore oublié cette information. Donc voilà ce qui m'est venu. C'est les Pixies.
Donc un titre que vous aimez bien.
Voilà, tout à fait.
Et vous allez nous le partager. Ça nous fait très plaisir. On écoute tout de suite les Pixies sur RCN.
Stop. We'll be right back.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et ce matin dans cette émission, nous parlons de handicap, handicap mental, handicap psychique. On va essayer de faire la différence aussi. Alors on voit bien qu'il y a une différence qui se fait de plus en plus, enfin pas une différence justement, plutôt le fait que les gens acceptent que les gens qui souffrent de troubles psychiques puissent souffrir d'un handicap. Mais on va essayer d'y voir un peu clair parce que c'est pas très très clair pour l'esprit des gens. Ça l'est pas pour nous, hein. Moi ça l'est pas pour moi ce matin, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ambre, que tu puisses nous expliquer. Qu'est-ce qu'un handicap ? Qui définit ce qu'est un handicap ?
Ah bah alors, il y a plein de façons de définir ce qu'est le handicap. Donc, il y a la loi, hein, déjà, du 11 février 2005, hein, que j'ai dit pendant le débrief que j'ai déjà évoqué, qui définit, hein, très bien ce que c'est qu'un handicap. Mais finalement, c'est que, moi, je donnerais une définition un peu plus simple, c'est quand on est effectivement empêché de faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on doit faire dans notre vie quotidienne.
C'est-à-dire qu'on souffre d'un trouble ou d'une maladie, quelle qu'elle soit, et d'un seul coup, cette maladie nous empêche.
Oui, tout à fait. En fait, il y a six types de handicap, hein, sur le site qui sont recensés sur le site du gouvernement. Je vais reprendre mes fiches un peu, mais il y a le handicap moteur, donc là où c'est la motricité. Alors,
celui qui est le plus. C'est ce qu'on appelle un handicap visible, finalement.
C'est ça.
C'est celui qu'on voit, c'est parce qu'une personne marche en fauteuil, avec des assistants, etc.
C'est un handicap visible, mais minoritaire, finalement.
Oui, c'est ce qui en ressort. Mais c'est ce qui est le plus visible.
C'est ça. Ensuite, on a le handicap sensoriel, hein, donc l'ouïe, la vue, on est aveugle, on a des problèmes de surdité. Ensuite, il y a les maladies chroniques invalidantes, hein, donc diabète, maladie de Crohn, qui peuvent devenir des handicaps dans la vie de tous les jours si on est empêché. On a le handicap mental. Donc là, le handicap mental, en fait, il y a une déficience intellectuelle de la personne ou un retard mental. Donc c'est le cerveau qui ne se développe pas comme il le faudrait.
Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur ? On finit sur les différents handicaps, mais après tu nous diras ce qu'on met à l'intérieur pour comprendre.
Et ensuite, il y a le handicap cognitif. Donc là, c'est une dysfonction de la cognition. Et il y a le handicap psychique, donc là c'est la conséquence d'un trouble psychique.
Alors on va essayer de définir un peu plus les trois derniers handicaps. Ouais. Le handicap mental, tu nous dis, c'est quand il y a à un moment donné il y a une déficience. Est-ce que par exemple on a quelques exemples qu'on peut donner pour comprendre ?
Par exemple une trisomie 21, c'est un handicap mental. Parce que on l'a, y a aussi cette chose qu'on met dans le handicap mental qui est on l'a depuis toujours, dès le plus jeune âge, c'est dû à un accident, un AVC par exemple, etc. Et donc on perd des facultés intellectuelles. En fait, il y a vraiment ce principe de déficience intellectuelle, donc un retard de QI. Et d'ailleurs, il y a une classification, je ne sais plus exactement comment elle est, mais c'est faible, fort, moyen, au niveau du QI en fait. Donc, le QI, c'est le quotient intellectuel.
Oui, bien sûr.
J'essaie d'être clair.
Donc, le handicap mental, pour bien comprendre, il y a effectivement ce qu'on appelle un retard, une déficience, ou un retard, ce que les gens appellent un retard en général.
C'est ça.
Et qui fait qu'effectivement, on rentre dans cette catégorie du handicap mental.
Exactement.
Il y avait la catégorie handicap cognitif.
Cognitif, ouais.
Alors, pareil, pour bien comprendre.
Alors là, c'est un dysfonctionnement, des fonctions cognitives, donc des troubles de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation au changement, du langage. Il y en a plein, hein, tout ce qui est en rapport avec la cognition. Et donc là, on y remet plus les troubles neurodéveloppementaux. On reviendra après dessus et j'expliquerai ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental, bien évidemment. Mais donc là, il n'y a pas de déficience intellectuelle dans ce trouble, mais des difficultés à mobiliser ses capacités.
C'est quoi par exemple, c'est les troubles dyslexiques, orthographiques, etc. On rentre dans le trouble, dans le handicap cognitif.
C'est ça. En fait, tous les troubles neurodéveloppementaux, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles dits, donc dyslexie, dyscalculie, etc. Troubles du spectre autistique aussi, hein, parce qu'on n'a pas forcément de déficience intellectuelle.
Non, bien sûr.
Voilà. Donc c'est tout ça.
Et alors, il reste le trouble psychique.
Ouais.
Le handicap psychique. Comme quoi, vous voyez, on est vraiment
sur un registre
où il y a toujours ce fil-là, effectivement, et on ne sait jamais de quel côté on se situe.
Et bien, donc, le handicap psychique, c'est la conséquence du trouble psychique. Hein. Donc, un trouble psychique, c'est tout ce qui est trouble du spectre de la schizophrénie, trouble anxieux, TCA, trouble addictif, trouble bipolaire, trouble de la personnalité borderline. Troubles du stress post-traumatique, ça rentre dedans aussi, et troubles dépressifs, je crois que je les ai tous faits, phobie et TOC aussi.
Ouais. Donc là, là, effectivement, on est plutôt lié à des troubles. Enfin, c'est plutôt ça. Les conséquences des troubles psychiques.
Exactement.
Qui sont un peu connus du grand public, comme tu viens de nous l'indiquer.
C'est ça. Et dans ce trouble, enfin dans ce handicap, il n'y a pas de déficience intellectuelle non plus. Mm. C'est important de le signifier.
Oui, c'est vraiment dans le handicap mental qu'on va retrouver cette notion de.
En fait, c'est vraiment ça la notion pour bien faire la différence entre handicap mental et handicap psychique. Mm. C'est justement cette déficience intellectuelle qui va faire foi, entre guillemets, de ces handicaps. Mais il y a des lignes qui sont plus fines, hein, le handicap cognitif et le handicap psychique. Et avec le handicap mental, il y a des symptômes qui se rejoignent.
Hein.
Oui, c'est ce que je pensais. Par exemple, le trouble de l'attention chez les personnes schizophrènes, ça peut... de la concentration, etc. Ça se retrouve dans certains TSA, dans certains TDAH et tout. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de
savoir.
Parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont proches, qui sont dans les deux catégories. Et finalement, c'est là que c'est compliqué.
Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on a tendance à résumer tous ces handicaps, je vais y arriver, sous une notion de handicap psychique? Dans quoi, en général, c'est catégorisé? Je crois que les médecins, c'est plutôt... Ils parlent de handicap mental, c'est ça?
Alors, justement, le handicap... En fait, le handicap psychique, c'est une notion très française.
Ouais.
Dans les autres pays, ils font pas tellement la différence. Nous, donc, ça a été introduit... Enfin, en France, hein, je parle de nous, mais... en France, ça a été introduit par la loi de 2005, hein, parce qu'on entend qu'ils citent le terme psychisme. Mais avant ça, en fait, on n'en parlait pas tellement. Et on voit d'ailleurs que quand on lit les définitions, j'en ai noté quelques-unes pour voir à quel point dans les textes, la différence entre psychisme et mental, elle est compliquée. Quand on lit la définition de psychique, ça dit qu'il concerne la vie mentale. Quand on lit la définition de mental, c'est relatif aux fonctions intellectuelles, au psychisme.
Ouais,
donc c'est une boucle qui n'en finit pas.
Ils se renvoient l'une à l'autre, quoi, tout le temps. Ouais.
Exactement. Donc en fait, même nous, en tant que professionnels, en tant que public ou personne qu'allons voir sur Internet, c'est hyper compliqué de faire la différence entre les deux. Donc il faut essayer de bien définir cette déficience intellectuelle en fait qui fait vraiment foi et qui est importante à comprendre. D'ailleurs, quand on demande à des psychiatres et psychologues, ils font cette différence. Hein. Ils parlent bien de handicap psychique et de handicap mental. Ouais. Ils font très, très bien la différence. Là où la différence, elle est moins faite, c'est entre
les troubles.
C'est entre les troubles.
En fait, on en parlait avec Ambre ce mercredi. On a l'impression que c'est cette loi du 11 février 2005 qui a fait qu'il y a un parti pris qui a été proposé finalement par les familles de malades psy pour le développement de cette loi, de dire on parle de troubles psychiques et de handicap psychique pour pas qu'il y ait cette confusion avec le trouble mental et le trouble et le handicap mental. Donc ouais, c'est un parti pris pour éviter la stigmatisation des personnes en situation de trouble ou de handicap psychique, pour ne pas qu'elle soit confondue avec du trouble ou du handicap mental.
Oui, parce qu'on peut imaginer que le handicap qui est associé au trouble n'a pas les mêmes conséquences. Il y a des choses qui peuvent être faites peut-être plus facilement pour tous ceux qui souffrent d'un handicap psychique que pour les handicaps mentaux, où il y a un retard mental. Donc forcément, je dis peut-être une bêtise, mais c'est pour bien comprendre justement.
Bah en fait, ça dépend du retentissement qu'il y a dans la vie de la personne. Il y a des personnes qui vont... Il y a quelqu'un qui le dit dans le micro-trottoir d'ailleurs, pour le handicap mental, souvent les symptômes sont niés par la personne. Mais en fait, effectivement, parfois on a des personnes qui sont atteintes d'un handicap mental, donc d'une déficience intellectuelle. Par exemple, les personnes trisomiques, atteintes d'une trisomie, que ce soit 21, 13, que sais-je, n'ont pas forcément conscience qu'elles ont un handicap. N'empêche qu'elles ont une reconnaissance en MDPH, etc. etc. Hein. Mais en fait, le handicap psychique, ça peut, il y a cette conscience aussi du handicap qui peut apparaître, où on peut ne pas nier les symptômes. Mais encore une fois, c'est des différences inter-individus, donc ça dépend comment on le vit.
Ça, j'aurais tendance, si je peux me permettre d'intervenir, à remettre un petit peu en cause ce que tu dis, parce que pour le coup, les trisomies, bien évidemment qu'il y a des personnes qui souffrent de trisomie et qui ont tout à fait conscience de leurs difficultés, de leur retard intellectuel. Et à l'inverse, dans certaines psychopathologies, ça peut être des troubles du spectre schizophrénique ou autre, les personnes sont effectivement dans le déni et ont du mal à reconnaître leur maladie.
Ouais, c'est ça, c'est même pas que par rapport au handicap, c'est par rapport à la maladie aussi.
Ah oui, c'est déjà par rapport à la maladie, oui, bien sûr.
C'est l'acceptation ou non de la maladie,
voilà,
finalement.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc je sais pas si voilà, enfin je voulais
oui,
juste.
Oui, bah ça dépend effectivement de la personne en elle-même, si elle accepte, si elle nie, machin, etc. Qu'est-ce que je voulais dire?
Moi, j'avais une question à te reposer, Ambre, parce que c'est la question du micro-trottoir tout à l'heure, c'est la différence entre handicap et trouble. Ok, on comprend que... enfin, moi, je crois comprendre, et j'aurais cette confirmation, que le handicap, c'est la conséquence du trouble, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on n'arrive plus à bien faire, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, un trouble, c'est une condition médicale ou psychologique qui influence le fonctionnement quotidien d'une personne, mais qui arrive quand même à pallier aux symptômes. C'est-à-dire que ces symptômes ne sont pas... je ne sais plus quel terme nous avons...
Handicapant ?
Ouais, c'était pas tellement ça qu'on avait employé tout à l'heure, mais je ne sais plus quel terme on a employé.
Je pense qu'elle génère des difficultés dans le quotidien de la personne, mais pas au point de l'empêcher d'accomplir certaines actions, d'être en interaction.
Exactement, pas de retentissement. Il y a moins de retentissement que dans le handicap, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc le handicap, bah, ça, c'est le trouble dans l'interaction avec l'environnement qui devient problématique. Et donc, c'est que les symptômes ont un gros retentissement dans la vie quotidienne de la personne.
C'est quoi comme type de retentissement, par exemple? Armelle nous l'expliquera dans un instant, dans son parcours de vie, mais c'est quoi les retentissements qu'on va avoir qui vont faire qu'on va plutôt rentrer dans la conséquence, c'est-à-dire que c'est un handicap?
Eh bien, à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui me bloque. La personne le disait au micro-trottoir, elle a donc des TOC, et elle nous disait, si j'ai 5 minutes pour aller à un rendez-vous et que je vois quelqu'un qui a son sac ouvert, même si ça prend 4 minutes d'aller le voir, j'irai le voir. En fait, c'est vraiment que ça nous perturbe, entre guillemets, c'est quelque chose qui se prend de plein fouet en pleine tête, il le dit. Donc c'est vraiment cette chose-là. Et puis après, c'est comme des personnes qui ont une phobie sociale qui ne vont pas pouvoir sortir de chez eux, des troubles de l'attention où on n'est plus en capacité de travailler parce que notre capacité d'intention, de concentration, elle est vraiment très très limitée. Ouais. Donc il y a tous ces retentissements-là qui sont assez importants dans notre vie au point de nous bloquer.
Et qui peuvent avoir des conséquences sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la...
Dans toutes les sphères de la vie finalement.
La vie scolaire,
Tout à fait.
C'est ça. Et donc la grosse aussi différence entre le handicap mental et le handicap psychique, j'ai oublié de le dire, c'est quand même notable, c'est qu'un handicap psychique, on peut s'en rétablir. C'est-à-dire qu'à un instant T, j'ai un handicap psychique, mais si je suis accompagnée et que j'ai un traitement médicamenteux, etc., il peut varier en fait. C'est vraiment fluctuant.
Le traitement qui va agir sur le trouble et qui va faire que le trouble n'est plus handicapant.
C'est ça, exactement. Et en fait, c'est vraiment fluctuant. Alors qu'un handicap mental, on l'a à la naissance ou au moment à partir duquel on l'a et on l'aura à
jusqu'à la fin de sa vie.
Mais on peut être accompagné pour diminuer certains symptômes, mais très, très, très légèrement.
Donc, si je reviens, parce que dans ce micro-trottoir, on entendait les gens qui disaient le handicap, c'est temporaire ou temporisé dans le temps, alors que le trouble, on l'a toujours. Et on a entendu l'inverse, d'ailleurs.
C'est ce que je voulais dire, pour le coup. Je ne sais pas si on peut faire la différence comme ça, enfin, définir le handicap temporaire ou permanent versus le trouble, temporaire ou permanent. Pour moi, il y a un continuum, en fait. Et effectivement, à l'extrémité de ce continuum, il y a la situation de handicap. Mais effectivement, on peut souffrir de troubles et ne pas, même si ces troubles sont quand même gênants dans son quotidien et sont à l'origine de difficultés multiples dans notre quotidien, peuvent ne pas entraîner un handicap. Et à l'inverse, des troubles qui vont s'intensifier avec le temps et qui sont, peuvent conduire à une situation de handicap.
Oui, donc le handicap peut être temporisé, effectivement.
Également, une personne peut avoir un trouble, subir du handicap par la suite.
Oui, bien sûr.
Et ensuite, faire disparaître grâce à la réhabilitation psychosociale.
Oui, bien sûr.
L'accompagnement, faire que la personne n'a plus de handicap.
Bien sûr.
Là, dans le cadre du handicap psychique ou du handicap cognitif, quelque part, finalement.
Et du handicap moteur aussi. Je pense qu'une personne, peut-être, qui a une pathologie comme la SEP, la sclérose en plaques ou la fibromyalgie, mais peut-être autre chose, je sais pas, un organe, enfin, un os ou je sais pas quoi, des soucis. Je pense que ça peut être aussi, c'est pas forcément le handicap moteur, mais peut-être pas forcément non plus définitif, permanent non plus. Ça dépend, bien sûr, parce que ça doit être une minorité, mais...
Bien sûr. En fait, c'est cette question de fluctuation qui rentre en jeu et dans tous les handicaps.
Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, même si on a entendu l'inverse, mais que le handicap, une fois qu'on l'a, on l'a à vie, alors que non, pas du tout, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, d'entendre là aussi, quoi.
Oui, oui, bah, pas forcément, effectivement.
Et alors, quand on revient à la MDPH, qui définit justement aussi le handicap, on a entendu pas mal de gens qui disaient ça dépend sans doute du niveau de handicap. Ça veut dire qu'il y a une classification aussi dans le handicap?
Ben oui, on a des personnes qui sont, mais pareil dans tous les handicaps, hein, qui ont plus, qui sont plus, comment dire, atteints par les symptômes, qui ont plus de retentissement dans la vie par leurs symptômes que d'autres. Je pense aux personnes qui ont un trouble du spectre autistique, par exemple. Ben, y en a qui vont pas du tout, ça va, ou ils sont atteints par le trouble, mais ça va pas du tout avoir les mêmes retentissements qu'une autre personne et qui aura plus de retentissement dans sa vie par les symptômes. Donc tout dépend de comment le trouble s'exprime finalement chez la personne.
Et c'est la MDPH qui va définir,
voilà, c'est ça.
Grâce
c'est
à un
ça.
Pourcentage
le taux d'invalidité en fait de la personne, quel que soit le trouble, l'origine du trouble ou du handicap, psychique, cognitif, moteur, il y a un taux d'invalidité qui peut aller de, je sais pas, quelques pourcentages à 50%, 80%, voire peut-être aussi, je sais pas si pour le coup 100% existe. Et qui, du coup, suite à ça, cette classification permet aussi, pour le coup, en tant que personne handicapée, d'avoir des droits ouverts et donc de bénéficier de l'AAH, allocation adulte handicapée.
Et ça, c'est décidé par la CDAPH, donc la Commission des droits de l'autonomie de la personne handicapée.
Ça fait beaucoup d'acronymes,
mais c'est bien de les connaître. On essaye de définir, d'expliciter.
Bon, on est un pays d'acronymes, hein, surprenant à tout ça, bien au contraire. Je vous propose qu'on poursuive notre échange dans un instant. Juste avant, je voudrais qu'on écoute Underwater Love. Pareil, ça c'est vous, Armel, qui avez choisi de Smoke City.
Oui.
Pareil, c'est parce qu'on vous a demandé juste avant l'émission.
Ça m'est venu sur le moment. Voilà, bon, effectivement, c'est pour les plus jeunes. Je pense que personne ne connaît, les plus jeunes, ni Pixies, ni Smoke City. Mais voilà, exactement.
Vous nous ouvrez votre playlist, on est bien, bien heureux.
Ça aurait pu être pire.
Dans 3 minutes, on vous donne les codes Spotify ou Deezer. On écoute tout de suite Smoke City sur RCN.
Quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá. Eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the sun comes rain.
cai, e tudo cai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, 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 and the fall will pull you. Oh, underwater
heures.
Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
On vous explique tout, hein. Le titre durait 6 minutes et la coupe est un petit peu rapide, c'est pour ça qu'on en sourit. On est toujours dans cette émission où ce matin on définit ce qu'est le handicap psychique. Même si on a bien vu qu'il y avait des handicaps psychiques, mentaux, cognitifs, il en existe évidemment d'autres formes. Mais rappelons quand même que, et c'est Roman qui nous l'a répété plusieurs fois, hein, les troubles, le handicap invisible est quand même le handicap qui représente 80% du handicap en général. Hein.
Oui, c'est ça, et en fait... C'est le handicap qui a un très grand retentissement dans la vie des personnes, finalement. Ça peut être très impactant et très, très handicapant, finalement, oui. Donc,
justement, on va essayer de comprendre en quoi c'est impactant avec Armel. C'est important, on voulait aussi faire cette émission parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, quand on voit quelqu'un en fauteuil, on comprend l'impact que ça a sur sa vie au quotidien. En revanche, quelqu'un qui souffre d'un trouble psychique qui ensuite ça génère un handicap, de comprendre quel impact ça peut avoir sur la vie. Alors Armel, je le disais, vous êtes aujourd'hui usagère d'Espoir 54. Alors vous souffrez de troubles psychiques?
Oui, alors de troubles anxieux, ce qu'on appelle, alors même si c'est plus censé depuis le DSM, les TOC ne sont plus censés être catégorisés dans les troubles anxieux, mais passons les classifications. Donc le TOC, trouble obsessionnel compulsif. Donc moi je souffre de TOC depuis que je suis toute petite.
Ouais.
Et donc ça, c'est effectivement générateur d'une forte anxiété. C'est associé chez moi aussi à des épisodes dépressifs. Je vais sur mes 45 ans, j'ai fait à certains moments de ma vie des dépressions assez sévères, dont la première qui a été la plus importante à l'adolescence. Et donc, je suis donc dans le trouble depuis bien longtemps et maintenant dans le handicap depuis bien longtemps aussi. Alors, vous voulez peut-être que je vous explicite un petit peu concrètement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus votre trouble et après vous nous expliquerez en quoi ça vous handicape, mais pour que les gens comprennent bien. Votre trouble donc de TOC,
oui.
Trouble obsessionnel compulsif associé donc à de l'anxiété et de la dépression. Comment ça se manifeste dans votre vie? Quel impact ça a sur votre vie?
C'est la première chose que je dirais qui me vient à l'esprit, c'est un hyper contrôle, un contrôle excessif de tout mon environnement en fait, et un doute. Un doute, on parle du TOC comme du doute pathologique, je doute de tout en permanence. Malgré le fait d'avoir recours à mes 5 sens perceptifs, peut-être pas le goût pour vérifier mes trucs, je doute encore. Par exemple, le TOC, ce sont des obsessions, des pensées automatiques. Mmh. Qui sont en général associés à un danger, certes qui n'est pas le risque, n'est pas rationnel, enfin mais n'est pas rationnel, est irrationnel, mais pour moi c'est rationnel.
D'accord.
Du coup, ça va générer une certaine anxiété et qui va générer un comportement répétitif pour un peu conjurer cette anxiété ressentie. Bon, après, il y a des nouveautés dans les mécanismes du TOC aujourd'hui. Donc, cette hiérarchie-là, ce mécanisme-là est un peu remis en doute. Mais en tout cas, c'est du doute. Donc, je vais effectivement avoir des rituels. Et donc, par exemple, chez moi, vérifier 3 fois la fermeture de ma porte d'entrée à clé. Donc, en pratiquant des séries de 3, parce que pour moi, trois actes, trois gestes correspondent à une fois. Et donc, je vais multiplier ces séries de trois fois jusqu'à ce que je sois à peu près sûr, enfin, ou de moins, un peu moins, que j'ai un peu moins d'incertitude que ma porte d'entrée soit bien fermée à clé.
Oui, le coup de la porte d'entrée, c'est effectivement un bon exemple. Donc
voilà, c'est ça, parce que ça concerne plein de gens. Ouais. Mais là, par exemple, moi, je suis dans mon logement depuis 2019. J'ai un foyer normalement au gaz. Je me suis acheté des plaques électriques parce que pour moi, c'est impossible d'utiliser du gaz. Ouais. Et on dit, puis du fait d'avoir bouché, enfin...
Fermer
le robinet d'arrivée du gaz, je vérifie tous les jours les boutons, position 0, 1, 2, 3, etc. un certain temps avant de quitter mon appartement. C'est un des rituels qui me prend le plus de temps, en fait. Ça, c'est des rituels qui sont visibles et qui sont effectivement manifestes dans mon logement, mais aussi à l'extérieur. Je suis cycliste, je vais avoir les mêmes choses quand je vérifie que j'accroche mon vélo. Mais de manière générale, c'est aussi au niveau du fonctionnement cognitif, du fonctionnement psychique, que c'est problématique. Je suis très lente, je doute de tout, donc je doute de ce que je vois ou de ce que je viens de lire. Même pour des lectures loisirs, où il n'y a pas une pression d'un devoir universitaire à rendre, avec la pression de devoir apprendre et retenir des choses qui peuvent être plus ou moins complexes. Même dans des lectures loisirs, il me faut une plombe, quoi, en fait, pour lire un livre de poche.
C'est-à-dire quoi, que vous revenez en arrière?
Je reviens en arrière, c'est ça, et je bloque, et je reviens sans arrêt sur la lecture de la même ligne, parce que j'ai l'impression de... peut-être la peur de mal comprendre, d'avoir loupé une information importante, et donc je reviens sans arrêt en arrière et j'avance pas, quoi. Donc j'ai validé une licence de psychologie en 2018, et dans mon travail universitaire, c'est le plus problématique, quoi. Au lycée, c'était déjà le cas, mais là, quand j'ai repris la fac, c'est toujours le cas, pour le coup. Donc je suis très lente, comparativement à la majorité des autres étudiants. Moi, il me faut un temps de dingue pour réviser le moindre cours, produire le moindre écrit, parce que je vais aller sur internet rechercher la moindre information. Je suis pas sûre de la définition du mot, à quoi ça renvoie précisément. Donc je vais chercher moult définitions avant d'arriver à me dire, c'est bon, là ça y est.
Mais c'est aussi parce que t'es consciencieuse.
Oui, mais pas que, voilà.
C'est positif, mais voilà. On comprend bien que...
C'est du perfectionnisme aussi, voilà, il y a le côté perfectionniste.
La différence entre perfectionniste et finalement votre trouble, c'est que vous, en fait, c'est vous le maîtrisez pas, quoi.
Ah bah non, oui, c'est ça.
Ça revient systématiquement, c'est-à-dire que même si vous essayez de le maîtriser...
Ah oui, non, j'ai fini ma dernière année de licence de L3 en 2018 à faire 42 kilos, à plus dormir et parce que je faisais que travailler mes cours, je me mettais mise une pression de dingue et j'étais complètement épuisée, quoi.
Donc ça, c'est comme ça que vous vivez votre trouble. Donc ça, c'est vraiment l'effet du trouble. Mais alors, à quel moment, pour vous, c'est devenu un handicap? Et du coup, qu'est-ce que... Alors, même si on a bien compris un petit peu, hein, globalement, en vous écoutant, comment ça pouvait être handicapant pour vous, mais à quel moment c'est devenu un handicap et qu'est-ce que ça change par rapport à monsieur et madame tout le monde dans la vie du quotidien?
Alors, je sais pas si je peux dire, je pense que déjà étant petite, c'était déjà un handicap quelque part. Moi, j'ai mes TOC depuis l'âge de 6 ans, donc je pense que ça a pris un stade assez important quand je me suis retrouvée seule à l'âge de 16 ans, où j'ai dû gérer, là, pour le coup, l'intendance de mon logement, où je me suis retrouvée seule dans mon logement à devoir vérifier la fermeture de la porte d'entrée, l'utilisation des plaques, tout ça. Et donc là, je me suis retrouvée complètement dépassée, quoi. Mes rituels, je les avais jusqu'à 6h du matin, alors que j'étais censée me lever une demi-heure plus tard pour aller au lycée. Donc j'ai été complètement dépassée. Ouais. Donc, mais c'est bien des années après, à l'âge de 20 ans et quelques, que j'ai fait la démarche de la fameuse maison départementale des personnes handicapées, MDPH, faire une demande pour être reconnue comme personne handicapée et pouvoir bénéficier quand même d'une source de revenus, en fait, qui n'était pas des moindres pour moi, puisque je ne pouvais plus travailler.
Alors voilà, c'est ça. Voilà, c'est un handicap, là, pour
voilà, le coup. C'était pas possible de travailler. Pour le coup, j'ai fait des métiers de vendeuse que j'ai occupé peu de temps. Mais, et puis moi, mon objectif a toujours été de reprendre des études supérieures. Ouais. Mais j'étais pas en capacité de travailler. Donc, je bénéficiais du fameux RMI à l'époque, ancêtre du RSA. Ouais. Et à un moment donné, pour pouvoir aussi enlever une pression sur mes épaules de type sur le plan financier, j'ai fait la démarche d'eux. Et puis aussi, ça m'a permis effectivement de déculpabiliser, de dire effectivement... Ouais. Voilà, je suis reconnue avec un taux d'invalidité de 80%. Je ne fabule pas quand je parle de... Même si j'ai du mal à exprimer mes difficultés dans le quotidien. Mais voilà, c'est un fait. C'est reconnu et ça permet de se déculpabiliser, d'avoir une forme de légitimité à être... Moi, j'ai été pendant quasiment 10 ans sans activité du tout. ni professionnelle ni étudiante.
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Voilà, RQTH. Tout à fait, la RQTH aussi.
C'est ça, c'est la reconnaissance administrative de ton handicap.
Voilà, tout
ça,
à fait.
C'est très important.
Et vous venez de dire, je ne fabule pas. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouviez penser à un moment donné que, ou en tout cas, on vous a laissé penser que...
Je ne sais pas si vraiment on me l'a laissé penser, mais on se culpabilise pour le coup d'être dans une...
Parce que ce n'est pas visible du coup.
Non, bah voilà, c'est ça, c'est pas visible. Et puis effectivement, même pour des dépressions, à l'époque et encore aujourd'hui, on entend, bah, il suffit de te mettre un coup de pied aux fesses. Ou,
ouais.
Mais quand on est au fond de son lit, moi je suis pas descendue chercher le courrier pendant 3 mois dans mon logement, je me lavais plus, je mangeais plus, j'avais des idées suicidaires, c'est autre chose. Quoi.
C'est
mais on se culpabilise quand même d'être dans ces... Parce qu'effectivement, bah, on n'est pas productif du tout. Quoi.
Ouais.
Même si je revendique pas le fait d'être productive, mais j'étais absolument pas productive, je ne faisais rien de mes journées, donc je culpabilisais en plus de cette situation-là.
Oui, puis là, on l'a bien compris dans votre parcours, effectivement, c'est impossible d'avoir une vie professionnelle et certainement même sociale, parfois, totalement ordinaire, effectivement, compte tenu du fait que, et on comprend pourquoi vous dites, ça prend du temps, tout prend du temps.
Tout prend du temps, c'est ça, effectivement, à un moment donné, bah, avec forcément les états dépressifs, j'ai eu des moments dans ma vie aussi où je me suis isolée socialement, pour le coup, et puis sentimentalement, c'est compliqué aussi, c'est difficile de se dire, bah, de dire à l'autre qu'on souffre de troubles, même si l'autre le voit à un moment donné sans forcément partager le quotidien. Je parle de la vie en commun.
Oui, oui.
Mais donc c'est assez compliqué, voilà.
Et donc aujourd'hui, vous diriez, vous êtes soulagé d'être connu comme handicapé.
Oui, tout à fait, parce que faut pas, je veux pas être hypocrite non plus. Effectivement, c'est une le fait de ne pas, même si moi, effectivement, là, c'est un peu problématique. Je suis censée, entre guillemets, c'est le statut de la MDPH n'est pas permanent. Moi, avant, j'ai eu le droit pour 5 ans de cette reconnaissance de la RQTH, l'AH à un taux de 80%. Maintenant, quasiment tous les ans, je suis obligée de reconstituer mon dossier pour renouveler mes droits.
Oui.
Donc, c'est toujours un peu précaire aussi pour le coup, mais le fait de ne pas avoir, d'avoir cette allocation-là pour survivre au quotidien, c'est quand même déjà un soulagement pour le coup. Je devrais avoir ce qu'on appelle, c'est pas péjoratif, un job alimentaire ou autre, ça me mettrait une pression de dingue.
Ouais, ce serait pas possible. On entend hein, en quoi c'est important effectivement aujourd'hui, cette reconnaissance du statut de handicap, Ambre, pour revenir un petit peu aux définitions. Roman aussi, hein, bien sûr, on peut en parler, mais cette reconnaissance, elle est essentielle à un moment donné, quoi.
Ah bah oui, bien sûr, parce qu'on est empêché de faire ce qu'on voudrait ou ce qu'on doit faire, entre guillemets. Armel le disait, pour le travail, effectivement, on peut être empêché de travailler parce que fatigue, parce que plein d'autres raisons.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Et il y a une variable qui est intéressante, c'est que en fait, le rétablissement en santé mentale, ça prend du temps.
Ouais,
c'est
tout
pas
à fait.
6 mois.
Et c'est pas linéaire.
Un an,
il n'est pas linéaire. Ouais, on peut se rétablir à un moment donné, refaire des rechutes, entre guillemets.
C'est en ça que la RQTH et l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, sont importantes dans la durée.
Oui, parce que c'est ça. Rappelons que ça durera peut-être pas à vie, ce statut de handicap.
Oui, aussi.
Mais que pour justement pouvoir en sortir, il faut à un moment donné cette bouffée d'air quelque part, donc de cette reconnaissance et de l'aide financière qui va avec.
Exactement.
Pour se permettre d'aller vers un rétablissement.
Bien sûr, parce qu'on a besoin d'être accompagné pour se rétablir et parce qu'avoir l'AH permet aussi de nous soulager peut-être financièrement et de se dire, bon bah. Je vais arrêter de me mettre une pression
de quelque chose que de manière j'arriverai pas à faire.
Voilà.
Dans le cas d'Armel, on le comprend bien, c'est pas possible.
Et je vais aller voir un thérapeute, je vais aller à Espoir 54, je vais aller à où je veux pour aller mieux. Mais effectivement, le handicap psychique et les troubles psy, en fait, ça survient à n'importe quel moment dans la vie. Une dépression, un trouble addictif, tout ce qu'on veut.
Et tout le monde peut être touché,
ah oui.
Hein, toute catégorie socio-professionnelle aussi.
Et en fait, il y a vraiment une question d'environnement, de facteurs environnementaux, de facteurs sociaux et de facteurs psychologiques. En fait, c'est vraiment le mélange des trois qui fait que à un moment donné, face à tout ça, et ben on a ce développement de troubles addictifs, ce développement de troubles dépressifs, de phobies, de TOC, où on peut être touché à bien avant, à l'âge de 6 ans, comme Armel, tout dépend.
On va devoir se quitter là dans quelques secondes. On ne pourra pas écouter. On aurait voulu écouter Charles Aznavour, La Bohème. Ce sera pour une prochaine.
Ouais.
Peut-être une dernière question pour revenir à ce que vous nous disiez, Armel. Est-ce que quelque part, la chose qu'on n'a plus du tout envie d'entendre aujourd'hui quand on souffre d'un trouble psychique, c'est mets-toi un coup de pied au cul et vas-y quand on ne peut pas?
Ah oui, ça bien sûr. Oui, ça, on est bien d'accord pour le coup.
D'où l'importance de cette reconnaissance.
Voilà, tout à fait. Ne pas oublier que c'est pas une carence ou une, là j'ai noté tout
ou
à l'heure.
Un manque de volonté.
Voilà, la faiblesse, faible psychologiquement, moi ça me titille toujours, j'ai du mal.
C'est terrible.
Je préfère le terme de vulnérabilité, même si elle c'est peut renvoyer à la même chose, mais le terme de faible psychologiquement, non, ça n'a rien à voir. Je ne me sens pas faible psychologiquement. Et c'est justement parce que j'ai dû assumer des choses et faire face à des choses difficiles dans ma vie que je me suis retrouvée en difficulté. Ouais. C'est loin d'être une.
Ah bah, il y a une grande capacité de résilience dans tout ça aussi.
Ouais. Ouais. Mais encore une fois, on le comprend bien, enfin j'espère qu'on le comprend dans cette émission, mais de l'importance de cette reconnaissance, elle me paraît effectivement essentielle. Merci Armel.
Merci à vous.
Merci de votre confiance, comme à chaque fois, de venir témoigner à notre micro et de nous raconter votre parcours de vie. C'était important de vous entendre. Merci à Ambre et à Roman pour cette émission. Et puis on espère que ça aura été un peu plus clair pour vous qui nous écoutez. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de Full Santé Mentale. Sur ce, on vous souhaite à tous et toutes une belle journée et à très bientôt sur RCN.
À bientôt.